Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain très poignant et Bertrand Chameroy pour un écran de veille consacré au midi de TF1, mais pas seulement. Notre invité Marc Lavoine pour un ouvrage collectif au profit d'une très belle cause. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, un lycéen américain dans un drame judiciaire. Marjorie Adelson nous en dira plus sur ce film car c'est un film. Et puis la réédition française d'un comics très rare, réexhumé par Clément Le Saffre. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe Vandel.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille et hasard du calendrier, vous avez regardé TF1 hier midi.
Bah oui, oui, soit plus de 8 heures avant l'annonce de la fusion avec M6. Faut croire que j'ai des dons d'extra-lucidité.
Oui.
Je suis à ça d'envoyer mon CV à la chaîne Voyance. Les déjeuners de TF1, donc chaque jour, après les 12 coups de midi, les téléspectateurs ont rendez-vous avec l'ami Laurent Mariotte qui propose ses petits plats en équilibre. Enfin, en équilibre, faut le dire vite, hein, parce que l'autre jour, il a quand même enchaîné un camembert rôti et un flan pâtissier.
Non.
Donc équilibre. Mais pas hier. Non, hier c'était tarte aux fraises et on sent que Lolo attend les vacances avec impatience.
Voilà pourquoi on va vous faire une tarte fine aux fraises aujourd'hui.
Tu l'as pas fait toi-même la pâte ?
Non, j'ai choisi une pâte feuilletée bio céréales complète. Non, c'est vrai que c'est technique la pâte feuilletée. On en trouve de très très bonnes dans le commerce.
Bon, alors, ouais. Alors, donc il prépare même plus la pâte. D'ici deux semaines, ça va se passer comme ça. Salut à tous, aujourd'hui on se prépare un bon hachis parmentier, mais bon, grosse flémasse, il y en a de très bons sous vide dans le commerce, alors je prends la barquette, une minute au micro-ondes, et c'est prêt, à demain. L'avantage, c'est avec le rachat d'M6 quand il sera claqué, Cyril Lignac pourra prendre le relais. Après la cuisine, vient ensuite l'heure du rendez-vous préféré de Bruno Mars, je veux bien sûr parler du journal de... Journal de Treasure.
Oh non ! Oh, je l'avais pas celle-là.
Non, mais parce qu'il est parti un peu vite. Le journal présenté.
On m'avait perdu Bertrand, je suis désolée.
Par Marie-Sophie Lacaro qui se fout un petit peu de notre gueule ces derniers temps.
Et si vous avez aimé la météo du week-end, eh bien vous allez adorer la suite. Regardez ce que nous annonce Tatiana Silva. Des averses orageuses fréquentes du Grand Est à l'Auvergne. On s'attend également à de nombreuses averses et un ciel très nuageux en Bretagne et vers le bassin parisien.
Voilà, vous avez aimé votre week-end, vous allez adorer la semaine, puis partout. Non, vraiment, je crois qu'elle se moque des téléspectateurs, écoutez.
Après les avions, la route. Et pour vous rassurer, si vous avez mis beaucoup de temps à rentrer hier, non, vous n'étiez pas seul.
Bah ça paraît logique, hein, c'est le principe des bouchons. Vous étiez seul, tu rentres vite généralement. Personne ne s'est jamais dit, tiens, ça roule hyper mal. Pourtant, on est seul sur la 13, je comprends pas Michel, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, c'est un anniversaire, ça fait pile 5 mois que Jean-Pierre Pernaut a présenté son dernier 13h et pourtant, son ombre plane toujours, puisque chaque jour, sur les coups de 13h40, on entend ça à la fin du JT.
Retrouvez le meilleur de nos régions avec Jean-Pierre Pernaut sur le nouveau site jpptv.fr.
Ce qui veut donc dire... Je sors ma calculatrice, que sur les 5h23-59 minutes de 13h de la semaine, il est cité 43 secondes, ce qui signifie que malgré son épargne, il est encore présent 0,22% du temps dans le 13h. C'est très fort de faire ça. Et après le 13h, mon moment préféré, les téléfilms des séries Feel Good, pour permettre aux téléspectateurs de passer une douce et belle après-midi.
Tout de suite, inédit, Chloé, 18 ans, disparue.
Chloé ?
Et à 15h45, ma fille disparue après une soirée étudiante.
Sympa. Ah bah... C'est quoi déjà le slogan de TF1 ?
Ensemble, plus que jamais.
Partageons
des ondes positives.
Ouais. Ah bah oui.
Ah bah là, on est dans le positif. Hein. Voilà, ça va peut-être changer avec la fusion avec M6. D'ici là, ne manquez pas cet après-midi votre téléfilm « Mon fils, 15 ans, amputé des jambes et brûlé vif avec de l'huile de friture sur les moignons ». Bonne journée sur TF1. Non, c'est faux, Eva.
Non, mais bien sûr, j'ai compris que c'était faux.
Ouais, j'ai vu le doute dans les yeux.
Oui, un petit doute.
Merci beaucoup, Bertrand Chameroy. Et ça, c'est vrai. Eva, je me tourne vers vous parce qu'un documentaire, mais vous dit particulier et en particulier, a retenu votre attention. attention Eva.
Génocide, extermination d'un groupe de personnes appartenant à un même groupe social. Eh bien, depuis 2017, les autorités tchétchènes procèdent à un génocide, celui des homosexuels, hommes et femmes. Au lendemain de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, Arte diffuse un documentaire choc de l'américain David France, 103 minutes en enfer qui m'ont anéanti. David Istiv, il est responsable de l'association Réseau Russe LGBT, mène des opérations d'exfiltration des personnes menacées et il raconte comment tout cela a commencé en 2017.
L'homme a été torturé et contraint d'en dénoncer d'autres. Ça a fait boule de neige. Chaque personne torturée en dénonçait 10 autres, lesquels se faisaient torturer à leur tour. Ensuite, on les rendait à leur famille, à qui on recommandait de les tuer.
Insultés, agressés, torturés, tués parfois par leur propre famille, voilà le sort qui est réservé à ces femmes et à ces hommes, et l'un d'entre eux raconte.
Il y en a un, ils lui ont posé un rat sur le dos, avec une casserole par-dessus. Ils ont fait chauffer la casserole, et le rat lui a déchiqueté le dos en essayant de s'échapper. Il paraît que le mec n'a pas survécu.
Alors, exfiltrés, ces jeunes gens sont planqués dans une maison secrète à Moscou avant d'immigrer au Canada ou en Europe. Et ils racontent leur peur permanente, des témoignages qui sont glaçants, bouleversants, rendus possibles grâce à un dispositif inédit qui est mis en place par le réalisateur. Grâce à de l'intelligence artificielle, les visages et les voix sont numérisés. Vous voyez un visage, mais qui n'est pas celui de votre interlocuteur. Lui, en revanche, c'est bien son visage qui apparaît à l'écran lors d'une interview. Tendez un micro au président tchétchène, Ramzan Kadyrov, et écoutez.
C'est n'importe quoi. Il n'y en a pas chez nous. Il n'y a pas de gays ici. S'il y en a, emmenez-les au Canada, avec l'aide de Dieu, loin de nous cette infamie, pour purifier notre sang. Prenez-les tous s'il y en a.
Alors comment arrêter ce génocide? Comment faire en sorte que les gens qui ont commis ces atrocités soient punis? Eh bien, un jeune homme, Maxime, a accepté de porter plainte et a donc dévoilé son identité. On le voit dans le reportage. D'autres plaintes ont été déposées auprès des instances internationales depuis la diffusion de ce film aux États-Unis, qui a une immense vertu, en plus d'être un documentaire remarquable. Grâce à ce film, plus jamais on ne pourra dire qu'on ne savait pas. Bienvenue en Tchétchénie, c'est le nom de ce documentaire. C'est sur Arte à 22h30 ou sur arte.tv. Attention, certaines images sont vraiment très dures et je vous recommande aussi la réécoute de l'émission Carnet du Monde de Sophie Larmoyer, qui a largement évoqué ce sujet ce week-end.
Merci beaucoup Eva Rock, et à quelques heures d'avion seulement de Paris. Merci. Exactement. Bertrand Chamerois. Bertrand, on vous retrouve demain à 7h40 pour la touche âme, c'est dans la matinale de Mathieu Béliard, et puis demain à la même heure avec Eva. Dans un instant, c'est Marc Lavoine qui sera avec nous, et juste avant, on écoute sa très belle reprise de Toi mon amour, c'est un duo avec Clara Luciani.
Europe 1 Culture Média,
9h, 11h,
Philippe Vandel.
mon amour, c'était Marc Lavoine en duo avec Clara Luciani sur Europe 1. Marc Lavoine qui est déjà dans ce studio, il est notre invité. On va parler de Mon Cartable, quelle histoire, ouvrage collectif rempli de très beaux souvenirs d'école. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Marc Lavoine.
Bonjour.
On vient d'entendre Toi mon amour, votre très beau duo avec Clara Luciani. Vous êtes chanteur, comédien, talent plus que multiple depuis le Parking des Anges. Foule d'autres tubes, plus de 3, peut-être 4, peut-être 5 millions d'albums vendus. Je vous ai demandé pendant la chanson et vous m'avez dit j'en sais rien. Votre premier livre, L'homme qui ment, en tout cas, récit consacré à votre papa, a été un best-seller, plus de 150 000 exemplaires.
Ah oui, 300 000.
Et votre, on est à 300 000, voilà, donc mes infos dataient. Et là, votre actualité, c'est un livre, tout petit livre, très bel objet. Il s'appelle Mon cartable, quelle histoire, je le montre à la caméra, on peut nous voir sur europe1.fr. Ouvrage collectif avec des histoires et des histoires dans l'histoire. Comment est né ce livre ?
Le livre est né parce qu'on a fait un cartable connecté avec Abdel Aïssou et Raymond Domenech.
Ça, c'est la première histoire. C'est quoi le cartable connecté ?
Bien, j'étais dans une salle de spectacle à Toulouse et puis j'avais rendez-vous à l'hôpital Purpan pour rencontrer des jeunes qui étaient atteints d'un cancer. Ils avaient fait une salle de rédaction, un studio de télé. Ça s'appelle le studio Philippe Noir. Ils m'ont demandé d'être le parrain. Donc je suis venu et puis au moment de partir pour répéter, une soignante m'a demandé si je voulais monter dans les étages pour rencontrer les jeunes, les enfants qui pouvaient pas sortir de leur chambre. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai rencontré une petite fille qui s'appelait Coralie et je lui ai demandé ce qui lui manquait le plus. Elle m'a dit ma classe, ma maîtresse et mes amis. En sortant, j'ai dit à mon ami Frédéric Domenech, qui est mon éditeur aussi, je lui ai dit mais... C'est bizarre qu'on puisse mettre des matchs de foot partout, qu'on puisse faire un geste opératoire d'un bout à l'autre de la terre. Et on ne peut pas relier un enfant à sa classe quand il est malade. Il perd un an, il va redoubler, il va décrocher. La plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux en tout cas, c'est comme la moitié de la France, vivent avec moins de 1 600 euros, moins de 2 000 euros par mois. Donc ils ne pourront pas revenir. C'est une discrimination. Uh-huh. J'en ai parlé avec Abdel et avec Raymond Domenech.
Abdel Aïssou et Raymond Domenech.
Voilà. Et Abdel a demandé. Quel était l'objet qui ressemblait plus à l'école ? Parce que moi, au départ, j'avais pensé mettre un écran des écrans dans les chambres et des écrans dans les classes. Mais ça, c'est pas possible. En plus, c'est très difficile de suivre l'évolution technologique. Il faut changer tout à chaque fois.
Ouais.
Alors qu'un le cartable, c'est un objet qui... C'est Abdel qui s'est posé la question, qu'est-ce qui était le plus symbolique de l'école ? Donc c'est le cartable, c'est le plus mobile. Donc on a découpé un cartable en deux. Il y en a un à l'école et un dans la chambre. Du coup... Des élèves peuvent s'occuper du cartable à l'école pour le développer, pour le montrer, pour monter l'affaire. Ils mettent 3 minutes pour le faire. Et alors qu'un adulte mettra 5-7 minutes.
Et je dois dire que vous êtes précurseur, puisque c'était il y a 6 ans, donc bien avant l'enseignement à distance, le Covid, le confinement. Oui. Le livre coûte 8 euros, c'est pas pour gagner de l'argent, ou plutôt si, mais pas de l'argent pour vous.
Ah non,
c'est de l'argent pour le programme.
Nous, notre programme est gratuit. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire que on n'a pas de sponsor, on n'est pas sponsorisé, on a des aides, des gens qui nous ont aidés à construire ce cartable, des entreprises. On a aussi des clubs, beaucoup de gens dans toute la France. On a mis quelques années avant de le sortir parce qu'on voulait vraiment installer les choses sur le terrain avec les rectorats, avec l'éducation nationale, avec la santé, les médecins, avec les parents aussi. C'est pas n'importe quoi, on fait pas n'importe quoi. On peut pas filmer un enfant comme ça dans une classe. Ça n'est pas gardé, les choses s'effacent au fur et à mesure. Il n'y a pas d'intrusion dans la vie, ni de... Personne ne peut... Ça va pas chez Google.
Ouais.
Donc si vous voulez, c'était très compliqué à monter. Et puis, grâce à la structure de la fondation qui a été montée par Abdel Aïssou, c'est vrai que c'est très très sérieux, donc du coup on a réussi un jour à le sortir, c'est passé du projet au programme.
Donc 8 euros qui vont tous au programme, 26 souvenirs d'enfance racontés par vous-même, mais également Amel Bent, Raymond Domenech, Dominique de Villepin, Gérard Jugnot, Estelle Denis, Philippe Gueluc, Grand Corps Malade, Laurent Ruquier, Philippe Besson, Azouz Begag, et j'en oublie. Votre souvenir de cartable à vous dites, comme toujours en pareil cas, je pense à Michou et à Lucien, vos parents. Ils vous ont enseigné quoi?
Ils m'ont donné toutes les valeurs et tous les principes fondamentaux à ma vie.
Avec ce paradoxe, vous citez également Gérard Cadet, qui était votre prof de lettres au collège. Et vous avez toutefois arrêté les études après 15 ans et demi. Je ne vous en fais pas le reproche. Je vous demande si c'est toujours un regret.
Et c'est un regret, non, parce que j'ai le regret de ne pas être allé m'asseoir sur les sièges prouvés des amphithéâtres de la Sorbonne ou de Sciences Po. Mais J'ai quand même continué mes études à travers le théâtre. Mon prof de lettres m'a donné, Camus m'a donné des armes. Il m'a donné Molière, Camus, des livres. Et il m'a bien noté d'ailleurs pour mon travail. Ouais. Donc du coup, je suis parti, il m'a dit que je pouvais construire ma vie autour des mots. C'est ce que j'ai essayé de faire.
Et cette idée vous vient alors que vous devez remettre des prix pour le concours général devant le ministre de l'Éducation nationale. Et là, il y a une jolie boucle qui est bouclée. Ouais. Il y a aussi plein de personnages comme Titi Lachataigne. On se croirait dans un roman de Pénac. Là, je parle que de votre texte à vous, il y en a beaucoup d'autres.
Oh oui.
Et un portrait de vous intime va arriver. C'est Hélène Manarino. C'est le portrait inattendu. Culture Média continue en compagnie de Marc Lavoine.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Mon cartable, quelle histoire. 26 souvenirs d'enfance compilés par Marc Lavoine au profit de l'association du cartable connecté. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et j'ai envie de dire Hélène Manarino, quelles histoires.
Eh oui, bonjour Marc Lavoine.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, cher Marco, ou Marco les grandes feuilles, ce surnom que vous donnez votre papa car il trouvait que vous aviez de grandes oreilles, vous dites souvent « J'aime dormir, cela me permet de rêver, d'entrer dans un monde différent. Je ne souhaite pas vous endormir ce matin. En revanche, je vous propose de voyager, de contempler, de rêver aussi à vos différents souvenirs. Et parfois, ça fait du bien d'entrer dans le monde d'avant qui fait toujours partie de nous. Poussons la porte de votre enfance dans ce pavillon de 62 mètres carrés où résonnaient souvent les voix de Ferrat, Brassens ou encore Guy Béard.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive.
Et attention, il fallait surtout du silence dans la maison quand Nougaro ou Gainsbourg chantaient à la télévision. Marc Lavoine, vous aimiez jouer aux cow-boys, aux indiens, en creusant dans le mur du fond du jardin. Votre jouet préféré, un cow-boy, plus précisément un tireur à genoux qui ressemblait à John Wayne. C'était d'ailleurs son surnom. Vous aimiez créer votre monde, le rêver, déjà dans votre chambre avec un lit bateau, c'est-à-dire un lit, une place avec trois tiroirs en dessous, couleur acajou. Des tiroirs qui contenaient parfois des petits gâteaux secs que vous pouviez piquer dans la cuisine. Vous avez grandi avec cette valeur essentielle, respecter les autres, et cette leçon, on aide, on protège, on rend service. Et celui qui vous a toujours protégé, c'est évidemment votre grand frère, qui pense d'ailleurs à vous tous les jours, et encore plus grâce à la montre que vous lui avez récemment offerte. Vous êtes très soucieux de lui d'ailleurs, un grand frère que vous rejoignez la nuit car vous aviez peur de dormir tout seul dans votre chambre. Marc Lavoine, la famille, votre principal moteur, mais surtout la faire rire. Dès l'âge de 7 ans, en vacances dans un camping dans le Lot, juste à côté de Cahors, vous aimiez jouer à des jeux de société avec vos parents, votre frère, notamment le nain jaune, un jeu de cartes. Et lors d'une partie, votre maman vous regarde, elle éclate de rire. Vous avez tout simplement décidé de tenir les cartes, non pas en éventail, dans vos mains, mais dans vos doigts de pied. Pratique.
Ça allait bien déjà.
Fallait le savoir.
C'est Hélène Manarino.
Rien ne pouvait vous arrêter pour obtenir un sourire des gens que vous aimiez, comme ce jour sur la route des vacances. Vos parents s'arrêtent sur la route en Corrèze, il pleut énormément, vous êtes avec votre ami Stéphane, et à l'entrée de la forêt, vous voyez des gros tapis de mousse. Vous décidez d'en prendre et d'en mettre sur votre tête tout en imitant un joueur de guitare. Je pourrais également raconter cette soirée où vous avez gagné le concours d'histoire drôle lors d'un dîner. Marc Lavoine, depuis toujours contemplatif, observateur, tout sauf individualiste. Le monde vous a toujours inspiré. À 11 ans, vous interprétiez, accompagné de votre frère à la guitare, les chansons que vous aviez écrites lors des soirées chez vos amis portugais. Une écriture admirable. D'ailleurs, votre professeur de français vous avait repéré, il se demandait au début si vous n'étiez pas aidé par vos parents pour l'écriture. Et non, c'était bien vous.
Wow.
Vous avez très vite fait chavirer le cœur des jeunes filles dès l'école primaire. Vous aviez beaucoup de prétendantes, notamment une certaine Christine. Et Madame Macky,
il a dit oui.
Votre institutrice était très amusée de votre succès. Alors continuons de revivre ce rêve d'enfant, Marc Lavoine, de voyager dans votre mémoire, et nous arrivons à votre adolescence. Vos balades avec vos amis, Billy, Coyote, c'est Boom, où vous arriviez toujours le dernier puisque vous mettiez un temps fou à vous coiffer dans la salle de bain. Et oui, vous aviez les cheveux longs à l'époque et vous aviez sûrement ce manteau à capuche en laine aux motifs très originaux que votre tante Denise vous avait ramené d'Algérie. Ou peut-être votre jean, t-shirt, blouson, votre côté rocker, même si vous n'étiez pas bon en mobylette, vous êtes tombé dès la première utilisation de la vôtre et vous n'êtes jamais remonté dessus.
Oh, les
Et puis, il y a eu surtout ce festival que vous aviez créé, un festival culturel et artistique. Vous avez réalisé votre premier film avec votre frère, ça s'appelait Le Cancre. Vous aviez écrit le scénario et il a été projeté devant un public. Et puis, il y a ce moment qui ressemble finalement à un rêve, mais qui était bien réel. Quand vous êtes parti camper pendant 4 jours avec votre frère comme un aventurier, vous chantiez les chansons de Dick Arnegan, vous vous êtes levé, vous avez chanté devant un champ rempli de 25 000 fleurs, comme s'il y avait 25 000 personnes devant vous. D'une assurance folle, d'une détermination déconcertante, c'était votre premier concert et il restera unique. Marc Lavoine, toutes ces images ont construit le rêve artistique que vous vivez depuis tant d'années. Vous continuez d'explorer, en ce moment le dessin, vous dessinez sur des dollars. Dernièrement, vous avez commencé à dessiner des personnages connus. Le dessin qui est revenu, puisque vous aviez fait une école de dessin plus jeune, pour suivre votre frère, mais vous vous êtes blessé volontairement pour arrêter cette école. Et puis il y a aussi votre côté sportif, le vélo d'appartement, vous faites attention à votre ligne, pas d'alcool, juste de l'eau, du chocolat, oui. Vous êtes souvent à la recherche de votre téléphone, vous avez une passion pour les chevaux, dont un qui porte le nom d'un célèbre film avec Anthony Hopkins, Hannibal. Marc Lavoine, vous aimez...
Vous savez des choses.
Elle sait tout.
Vous aimez le calme, lire, marcher, l'apaisement, la sérénité, finalement le rêve de tout homme, et vous embarquez votre public depuis presque 40 ans dans ce rêve qui rend finalement la réalité plus belle.
Merci beaucoup,
merci
Alain Malagno.
Madame. Hein,
ça vous a scotché, Marc?
Un peu, oui, parce qu'il y a des trucs quand même. À mon avis, vous avez eu mon frère au
téléphone. Et il y a un truc d'encore plus dingue, c'est que pendant qu'elle parlait, avant qu'elle évoque le dessin,
oui,
vous avez pris le livre et vous êtes mis à dessiner.
Non, parce que quand on parle de mon frère, je me mets à dessiner.
Et vous avez dessiné quoi?
Non, rien, un indien. Mais...
et vous jouiez au cow-boy aux indiens.
Je dessine des personnages
frère.
Connus maintenant, je dessine des poètes. Parce que mon spectacle est basé là-dessus, et du coup, je me suis mis à faire toute une galerie de portraits. Je ferai un tract avec pour l'Olympia.
Ouais.
Parce que on est dans une période difficile, on est dans les années 20. Et les années 20, c'était vraiment un mélange d'artistes, Hemingway, Man Ray, enfin. Une vie belle et puis une vie avec une révolution industrielle. Aujourd'hui, c'est la révolution numérique. Et des gens à la soupe populaire, des croix gammées sur les cimetières, enfin tout un mélange de choses qui nous ont amené dans ces années folles qui ont vécu 10 ans et qui sont mortes au bout de 10 ans et après ça a été un peu plus compliqué. Donc je regarde cette époque, la nôtre là en ce moment, avec beaucoup de tension. Hier j'étais dans un lycée hier à Argenteuil. Hier matin, je suis allé voir des élèves. Il y avait à peu près
très rapidement Marc Lavoine.
100 élèves et les profs. C'est très intéressant de travailler avec eux, de parler de la résistance et de Daniel Cordier. Et vraiment, ils sont très attentifs à la société d'aujourd'hui. On ne leur pose pas cette question aux jeunes.
Je vous interromps, Marc Lavoine, mais l'émission continue évidemment. On est ensemble jusqu'à 11h. Il y a Marjorie Adelson qui va parler de cinéma. Merci beaucoup, Hélène Manerino.
Merci, madame.
Je vous dis bravo, one more time. Et je vous dis à demain, one more time. C'était de l'anglais, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Mon cartable, quelle histoire, 26 souvenirs d'enfance, c'est 8 euros seulement. C'est édité par Belin Éducation et c'est au profit de l'association des cartables connectés fondée par Marc Lavoine il y a 6 ans avec Abdel Aïssou. Laurent Ruquier raconte, il fait partie des personnes à qui vous avez demandé un souvenir. Il dit, j'ai toujours un cartable. Il aura fallu que Marc Lavoine me demande un souvenir d'enfance avec mon cartable pour que je m'en rende compte. J'allais vous demander comment vous avez travaillé, qui avez-vous contacté et pourquoi, comment c'est fait. C'était votre carnet d'adresse ou vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie de savoir.
Oui, on a contacté Abdel, Raymond et moi, nous avons contacté les gens qu'on connaissait. Certains ont pu le faire, d'autres n'ont pas pu.
Ouais.
Je suis heureux qu'il n'y ait pas assez de femmes. J'aurais voulu qu'il y en ait plus, mais il y a quand même Estelle Denis, Amel Bent, Sylvie Wayon, Corinne Diacre, Fadela Amara, Diane Masloum, Éline Papin. Je suis content parce que j'en voulais plus, mais quelques comédiennes n'ont pas pu, parce qu'elles travaillaient, elles étaient sur des tournages, etc.
Éline Papin, qui est votre épouse, elle a dû être facile à convaincre. Et vous m'avez dit, hors antenne, que vous étiez très très ému par le texte que vous envoyez à Amel Bent.
Oui, très ému. Celui de Lynn est merveilleux. Pour moi, c'est un de mes préférés. Mais bon, je ne suis peut-être pas objectif. Mais c'est vrai qu'Amel a écrit un texte absolument incroyable. J'étais bouleversé. Lisez-le, vous verrez, ce texte est absolument génial.
Vous m'avez dit, j'avais les larmes aux yeux.
Oui,
donc, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a mis les larmes aux yeux?
Eh bien, je ne sais pas. Elle m'a raconté sa vie à travers ce cartable, ses parents, sa mère, ses colères, puis les choses qu'on comprend plus tard. Ce cartable qu'on a toujours sur le dos, on n'aime pas quand on l'a au présent. Et puis, quand il devient un souvenir, alors il prend beaucoup plus d'importance et elle y met encore des choses à l'intérieur. et elle en sort encore des choses pour vivre aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire. Elle a une syntaxe et elle écrit très très bien. Voilà.
C'est dans ce petit livre qui n'est petit que par la taille. Bonjour Marjorie Adelson.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est le premier indispensable du jour. Comme chaque semaine, vous nous présentez votre sélection VOD. Et d'abord un film inédit, disponible sur Netflix. Il s'appelle Le Monstre.
Oui, c'est un film qui était en compétition au festival de Sundance. Et ce monstre, c'est Steve. Il a 17 ans et il est accusé d'avoir participé au braquage d'une épicerie à New York. Braquage qui a entraîné le meurtre du gérant. Alors dès le début, Steve, il nous intrigue car il correspond pas vraiment au profil des petits caïds. Il vient d'un milieu aisé, c'est un lycéen brillant, passionné de cinéma. Mais son avocate lui fait vite comprendre que le jury ne le verra pas comme ça.
Comment ça se passe selon vous ?
Pour l'instant, rien ne peut établir que vous êtes innocent. Certains membres du jury, en dépit de ce qu'ils nous ont dit quand on les a choisis, ont décidé que vous deviez être coupable dès l'instant où ils vous ont vu. Vous êtes jeune, vous êtes sur le banc des accusés et vous êtes noir. C'est tout ce qui les intéresse.
Alors c'est un film procès, il y en a beaucoup ces derniers temps, mais celui-là il est très réussi grâce à l'acteur Kelvin Harrison Jr. qui incarne avec finesse le jeune Steve. Mais là où le film tire vraiment son originalité, c'est dans le scénario. En fait, il dresse un parallèle très malin entre Steve l'étudiant en cinéma qui a appris que dans l'écriture d'un film, ce qui compte c'est le point de vue, et Steve l'accusé qui va devoir écrire son propre destin en ralliant le jury à son point de vue justement. Et oui, car dans les tribunaux américains, il n'est pas vraiment question de vérité, mais de stratégie et surtout d'entraînement.
Je vais vous poser des questions. Si votre réponse me convient, je laisserai le gobelet à l'endroit. Si elle ne me convient pas, je le mettrai à l'envers. Quand je le retourne, c'est à vous d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas avec votre réponse, ok ? Est-ce que vous connaissiez James King avant le début de ce procès ?
Non. Enfin, je veux dire oui. Vaguement.
Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois avant le braquage ?
L'été dernier, je crois. Non, j'en sais rien. J'évite de trop parler aux gars comme ça, vous voyez ?
Alors, c'est un premier film pour le réalisateur Anthony Mandler. Il est surtout connu en fait pour avoir réalisé des clips de Rihanna et de Beyoncé. Et franchement, ça se sent. Il nous entraîne vraiment dans une sorte de danse envoûtée, voilà, très maîtrisée esthétiquement. Le Monstre est à voir sur Netflix.
J'ai envie de voir ça parce qu'un procès filmé comme du Beyoncé, on se demande. Deuxième film dont vous nous parlez, Marjorie, disponible dès aujourd'hui. Il est en exclu sur MyCanal, un film très connu, Petit Pays.
Oui, c'est l'adaptation donc du roman de Gaël Faye et c'est un vrai bijou. Alors, ce Petit Pays, c'est le Burundi, juste à côté du Rwanda. C'est là où habite Gabi, un petit garçon de 10 ans. Il vit avec sa sœur, son père français, c'est Jean-Paul Rouve, et sa mère rwandaise d'origine Tutsi. Alors Gabi, il fait les 400 coups avec ses copains, il vole des mangues dans les champs, bref, il a la belle vie. Mais très vite, les conflits ethniques entre les Tutsis et les Hutus éclatent. C'est le début d'une guerre civile qui commence à questionner même les enfants.
Papa, c'est quoi la différence entre les Hutus et les Tutsis ?
Ah bah écoute, ils n'ont pas le même nez.
Ah, sérieux ?
Eh ben, les Hutus, ils sont petits avec des gros nez, et les Tutsis, sont grands, minces, avec un nez tout fin. Comme maman, et on sait jamais ce qu'ils pensent.
Et moi, je suis quoi ?
Toi, t'es une coquine ! Toi, t'es une grosse coquine qui va aller au lit ! Ouh, la coquine ! Allez hop, au lit !
La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire ?
Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue, ils vont à la même église.
Ils se battent pourquoi alors ?
Eh ben, à cause de leur nez.
Arrête.
Alors, c'est pas facile hein, d'adapter un film aussi acclamé par la critique et par le public. Mais le réalisateur Éric Barbier s'en sort franchement haut la main. Il met en parallèle deux drames, deux implosions. L'une intime, celle de la séparation progressive des parents de Gabi. L'autre historique avec ce génocide effroyable sur lequel il revient avec intelligence.
T'es pas au courant ? Mon père, il a fait comme un fou. Il a mis les matelas dans le couloir. Il y a eu un coup d'état. Des militaires ont tué le nouveau président. Je te crois pas sûr, là. Je te jure. Même tuer des types du gouvernement. Quoi ? Dans les provinces, les Hutus ont commencé à massacrer les Tutsis juste pour se venger. C'est la pagaille. Tout le monde flippe.
Voilà, donc on entend ces petites voix qui commentent l'actualité et justement toute la saveur du film. C'est le conflit filmé à hauteur d'enfant. Le jeune Djibril Van Coppenolle est épatant, un gamin qui découvre le racisme et la guerre. C'est lui qui donne au film toute sa puissance, celle d'un jeune métis obligé de se questionner et de grandir plus vite que prévu.
Donc c'est un film violent.
Oui, car contrairement en fait au livre de Gaël Faye, Éric Barbier ne nous épargne pas la violence frontale. Il y a 3-4 scènes comme ça très fortes mais difficiles à regarder, toujours filmées à travers les petits yeux de Gabi. Après, le film nous éclaire aussi sur un conflit parfois obscur pour le grand public. Petit Pays est à voir sur MyCanal et Le Monstre dont je vous parlais tout à l'heure est sur Netflix.
Un des deux films vous a tenté, Marc Lavoine, sinon les deux ?
Les deux, bien sûr, parce que Sundance, c'est un festival incroyable, il y a toujours des bons films qui sortent de là. Mais celui-ci me plaît, m'attire beaucoup. J'avais vu un reportage dessus. D'abord, j'aime beaucoup Barbier et Rouvre, et puis l'auteur du roman. Au-delà de ça, J'ai rencontré un Tutsi qui m'a conduit un jour en voiture. J'aime bien parler au chauffeur.
Ouais.
J'ai demandé qui il était, d'où il venait. Il m'a parlé il a pris une balle dans la tête. Il a été sauvé par son jardinier le matin. Et puis il est arrivé en France. Et je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit j'ai épousé une Hutu et on attend un enfant. Donc je trouvais ça incroyable que ce type me raconte ça. J'allais faire une émission avec trois hommes d'église. Enfin,
c'est presque un film.
Un rabbin et un curé. Et puis ce type me raconte cette histoire. Et j'étais totalement. Il est là. Et il a pris une balle dans la tête. Toute sa famille a été tuée devant lui. Et il a épousé une Tutsi ou une Hutu. Et je trouvais ça incroyable comme réponse à la vie.
Enfin, il a épousé une femme de l'autre ethnie.
Exactement.
Incroyable.
Il attendait un enfant, juste. C'était absolument époustouflant. Voilà.
Évidemment. Histoire très romanesque. Merci beaucoup, Marjorie Adelson, pour ces conseils de VOD. Avant de retrouver les films en salle, demain, on est mercredi, on sera avec Mathieu Charrier. Dans un instant, on va parler comics avec notre deuxième indispensable, avec Clément Le Saff. Mais d'abord, musique, c'est Kimber Rose. I'm sober, my temperature's a little colder. I see it clearly now, only found for you. Cause I was young, dumb, and broken. I hate being sober, my hands are shaking and the nights are lonely. I put my body and my soul through hell for you. Why does it hurt that it's all? I've been drunk for 3 and 15 days. Half that perfume. Sober, c'était Kimber Rose sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable, Clément Le Saff. Nous serons toujours avec Marc Lavoine. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Marc Lavoine et en compagnie de Clément Le Saff. Marc Lavoine dessinait pendant l'émission tout à l'heure, il avait bien raison. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On va parler de dessin, mais pas seulement, parce que Clément, ce matin, vous avez déniché un comics rare, une pépite, dites-vous, à ne surtout pas louper.
Absolument, un comics totalement unique, ça s'appelle Promethea. C'est une histoire qui a été publiée entre 1999 et 2005 et un peu oubliée depuis, et c'est dommage parce qu'elle a été écrite par Alan Moore. Alors Alan Moore, c'est un des plus grands génies de la bande dessinée contemporain.
Oui.
C'est à lui que l'on doit des chefs-d'œuvre hein, comme Watchmen, V pour Vendetta, mais aussi quelques-unes des meilleures histoires de Batman et Superman. Mais Promethea est un comics très différent de tout ça.
Ah bon, on va voir pourquoi, de quoi ça parle.
Alors l'histoire est située en 1999 dans un New York futuriste illuminé par les néons et envahi de voitures volantes. Sophie Bangs, une lycéenne passionnée de littérature, rédige un mémoire sur Promethea, une héroïne de la littérature du début du XXe siècle, d'inspiration égyptienne. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Promethea est réel. C'est une héroïne créée par la force de l'imagination. Un soir, alors qu'elle est attaquée par un esprit, Sophie écrit un poème, une ode à Prométhée, et paf, la lycéenne se transforme en guerrière avec une armure dorée et un caducée magique en guise d'arme. Vous savez, le caducée, c'est le bâton d'Hermès avec les serpents roulés autour d'un bâton. C'est l'emblème des médecins.
Voilà, alors je suis ici, pardon de dire ça, mais c'est une histoire de super-héros, comme vous nous racontez souvent, histoire plutôt classique, de super-héros classiques.
Oui, mais parce que ce n'est que le début. Hein. Il y a une héroïne, des super-pouvoirs, des combats, etc. Mais tout ça, c'est juste une toute petite partie de Prométhée. En fait, Alan Moore a pris énormément de liberté. Il a mélangé plein d'influences et surtout, il a insufflé ses croyances personnelles, religieuses et artistiques dans ce comics. C'est un auteur, hein, Alan Moore, qui se revendique anarchiste, adepte de la magie, adorateur de divinités mythologiques, un drôle de bonhomme dont l'énorme barbe cache des penchants pour tout ce qui est un peu mystique. Résultat, le processus de création de Prométhée était plutôt original. Écoutez J.H. Williams, le dessinateur.
C'était dur de savoir ce qu'Alan Moore avait en tête pour le concept général. C'était très métaphysique. On construisait le script à partir d'idées qu'on lançait en l'air dans nos discussions. Certaines retombaient, d'autres pas. Par exemple, on se disait, tiens, et si le prochain chapitre avait pour thème la peinture impressionniste ? Je balançais ça et Alan disait, mais oui, ça me fait penser à ça et on pourrait ça aussi. C'est comme ça qu'on travaillait.
Et dans le comic, ça se matérialise par le fait que Prométhée, en fait, est une créature de l'esprit. Elle évolue dans l'immatériel, le monde des pensées. C'est un peu farfelu, mais c'est un monde non contraint par les lois de la physique que Sophie explore quand elle revêt le costume de l'héroïne. Et ça donne lieu à des explorations scénaristiques assez folles. Il y a notamment tout un chapitre, le chapitre 10 dans le premier tome, qui montre une expérience de sexualité tantrique, une sexualité basée sur la lenteur et la spiritualité. Je vous le disais, vous n'avez jamais rien vu de tel dans une BD.
Et dans le deuxième tome, j'ai vu des images que je ne peux pas montrer à la caméra. C'est
absolument
vrai que ça part très très loin. J'imagine que les dessins doivent pas être classiques. Non, je dis j'imagine, en fait je sais parce que j'ai vu les dessins, ça part dans tous les sens.
Ah, ils sont extraordinaires. Oubliez le concept de case, hein. Ici ça déborde de partout. Chaque double page est une œuvre d'art. Le travail de J.H. Williams est absolument dingue. Il joue avec le lecteur, il nous oblige parfois à lire à l'envers, à tourner le livre à 360 degrés sur une seule double page pour qu'on suive la marche des personnages. 360 carrément, on fait tourner le livre sur lui-même. C'est assez fou et là encore, c'est le fruit du travail de deux génies au sommet de leur art.
Environ 50% des idées visuelles que vous voyez dans Prométhée viennent d'Alan et 50% de moi-même. Au fur et à mesure de la série, c'est devenu une sorte de mariage entre deux esprits qui partageaient le même but, à savoir repousser l'espace de la page. Imaginez tout ce qu'on pouvait en faire. Dans un sens, on a plus cherché à défier l'espace qu'à le définir.
Voilà, si ça vous plaît, si ça vous donne envie, sachez que les deux premiers tomes de l'intégrale Prométhée sont disponibles chez Urban Comics. Ce sont deux très beaux ouvrages et le troisième sortira en octobre. Ça vous laisse tout l'été pour rattraper.
Merci beaucoup Clément Lossa, vous êtes client de ce genre de choses, Marc Lavoine.
Ça, j'aime beaucoup les dessins. C'est vrai que les couvertures me font un peu peur. J'ai toujours l'impression d'entrer dans une sorte de chose un peu qui va me dépasser, qui va me mécaniser. Mais j'aime beaucoup les dystopies, les livres comme ça qui sont un peu.
Mais c'est vrai pour.
Un peu noirs. Mais moi, je suis plus Gottlieb, je suis plus Bret Eicher. C'est vrai, je suis de la vieille école.
Ah oui, alors là, on est loin de Bret Eicher. Bon, quoique Gottlieb adorait Watchmen.
Moebius aussi. Pourquoi tu dis adorait, il est mort
Gottlieb, malheureusement, il est mort. Tiens, je le salue, j'ai jamais vu sa fille, Ariane.
Quelle
voilà.
Tristesse, je ne le savais pas.
Type extraordinaire, et Gottlieb avait aussi signé, vous parliez de Moebius, il l'avait signé dans l'Écho des Savanes, si je me souviens bien.
Je l'ai rencontré, c'était un homme incroyable. Et Claire Bret Eicher, franchement, ça m'a fait quelque chose, parce que les dessinateurs sont des gens absolument incroyables. Cardon, par exemple, qui est un dessinateur que j'adore.
Pareil.
Mais j'aime beaucoup ce que font ces gens-là, bien, bravo, bravo.
Merci beaucoup Clément Lossa, vous avez fait un adepte. Culture Média continue, c'est à la dernière ligne droite de l'émission, toujours en compagnie de Marc Lavoine. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Marc Lavoine qui présente Mon cartable, quelle histoire, 26 souvenirs d'enfance. C'est signé par les éducateurs d'éducation, plutôt c'est publié, c'est diffusé par Belin Éducation et c'est pour une noble cause. Il y a The Voice qui s'est terminé samedi. Marc Lavoine, vous êtes l'un des quatre jurés de l'émission musicale emblématique de TF1 depuis l'an passé. C'était la finale de la saison. Vous étiez en finale. Enfin, votre talent, Jim Bauer, était le grand favori.
Oui.
Il a été battu par Marie, la talent de Florent Pagny. Oui. Vous l'avez vécu comment ?
Très très bien. Moi aussi, j'avais envie de travailler avec Marguerite, comme Florent avait envie de travailler avec Jim.
Donc, ouais.
On est bienveillants sur nos camarades. Moi, je suis très ami avec Florent depuis maintenant plus de... On se connaissait avant d'être connus. Donc quand elle est partie chez lui, j'étais rassuré parce que bon, elle serait partie chez Amel, c'était pareil. On est vraiment On est attentif, on est bienveillant et puis on essaie de les aider. Quoi.
Jim Bauer a fait des choix assez forts dans toute cette saison, comme cette reprise très remarquée de l'un des hits d'Annie Cordy, Tata Yo-Yo, Fallait oser.
Tata Yo-Yo.
Oh, très très fort.
Ce qu'il y a, c'est ton grand artiste, chapeau.
Exceptionnel.
Tata Yo-Yo. Dans ma tête. Il y a des tas d'oiseaux.
Annie Cordy, qui nous a quittés récemment, cette reprise, c'était une idée à lui, une idée à vous ?
À lui ? Non, mais moi, j'ai proposé des chansons comme Angie, comme Under Pressure, certaines choses. Ensuite, on discute des chansons que... Voilà, je propose des choses, il en propose, on en choisit, chacun choisit son truc. Parfois, ça tombe sur une chanson que j'ai choisie, parfois c'est lui, ou c'est eux. Mais là, c'est vraiment quelque chose qu'il a apporté. Je n'ai voulu d'ailleurs le voir qu'à la répétition. Il m'a dit, j'ai un truc, j'aimerais te le montrer au dernier moment. Je dis, écoute, on verra ça aux répétitions ou au coaching. Et c'était tellement beau. C'est très rare à quelqu'un qui peut interpréter des choses comme ça. Évitant les écueils sur une crête, parce que ça peut vraiment devenir quelque chose de...
Parodique.
Moi, ce que j'aime, c'est que les gens qui frôlent le ridicule. Ce qui était le cas de Barbara, ce qui était le cas de beaucoup d'artistes. Quand Barbara se jetait sur le piano, quelqu'un d'autre l'aurait fait, tout le monde aurait été ridicule. Elle non, parce qu'elle était au-delà. Elle était totalement dans quelque chose de mystique, de fou. Quoi. Et c'est la marque de certains grands artistes qui, d'un coup, transgressent un peu tout, mais ils restent dignes, il y a quelque chose.
Alors, je dois dire que, pour qui ne connaîtrait pas l'émission, The Voice, c'est pas seulement s'asseoir dans des beaux fauteuils rouges et appuyer sur des bumpers, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour les coachs.
Beaucoup de travail et surtout beaucoup d'attention, parce que ceux que nous prenons pas, on les écoute et on écoute d'où ils viennent, quelle est leur vie, pourquoi ils sont là. Et ça, moi, j'ai un souvenir incroyable, c'est une dame qui allait partir, je lui dis, madame, restez deux secondes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle me dit, je suis femme de ménage. Et je lui dis, c'est très bien, pour des personnes âgées.
Ouais.
Et je lui dis, pourquoi vous êtes venu chanter? Elle me dit, parce que c'était pour battre l'illettrisme. Elle était illettrée et elle a réappris à écrire et à lire grâce aux chansons. Comme mon frère a travaillé pendant 20 ans dans cette branche, la lutte contre l'illettrisme, j'étais très touché parce que les gens qui viennent faire entendre leur voix ne viennent pas seulement pour chanter à la télé. Ils viennent aussi pour nous montrer quelque chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien de se regarder, de s'entendre, de s'écouter. Et voilà, c'est des moments vraiment... on a la chance de pouvoir vivre des moments comme ceux-là, qui ne sont pas des moments préparés, ce n'est pas du tout des choses mises en scène. C'est pas, on n'est pas dans le misérabilisme, mais on est dans la vie des gens. Et ils nous font l'honneur de nous regarder beaucoup.
D'un mot, Marc Lavoine, il nous reste 30 secondes. Les salles de théâtre, de concert vont ouvrir. Et pour vous, il va se passer quoi? C'est quoi votre actualité? On va vous voir sur scène
c'est
bientôt.
C'est surtout pour les gens que c'est bien.
Ouais.
Parce qu'on dit tout le temps.
Oui, mais comme c'est vous qui est en face de moi, j'en profite.
Oui,
pour
non,
vous...
mais c'est, on dit tout le temps.
Ah oui.
Vous êtes triste, vous n'allez plus sur scène.
Non, non.
Je dis, c'est surtout les gens qui.
C'est vrai.
Qui viennent nous, pas nous voir.
Nous, on compte les jours ici à Culture Média. Vous, quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir sur une scène?
Moi, je repars en tournée là pour les festivals d'été avec mon groupe. Et ensuite, je reprends ma tournée avec Alain Lanty, qui s'appelle Dans la peau. Je raconte un peu l'histoire de l'Olympia où j'ai vécu et les gens que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui, les poètes aussi que j'ai lus, et j'essaie de faire un spectacle autour de la poésie.
Lanty au piano, merci beaucoup Marc Lavoine.
Je chante des chansons de Bachung, je chante des chansons de Gainsbourg, d'autres de Gréco, de plein de gens, de Scheller.
Ouais, et vous mettez pas Plavante sur le piano de Lanty?
Je pourrais.
Hommage à Barbara, merci beaucoup Marc Lavoine. Je rappelle ce petit livre, Mon cartable, quelle histoire, 26 souvenirs d'enfance racontés par vous-même, mais également Amel Bent, Domenech, Raymond Domenech, Dominique de Villepin, Gérard Jugnot, Estelle Denis, Philippe Gueluc, Grand Corps Malade, Laurent Ruquier, Philippe Besson qui ouvre ce recueil, Azouz Begag. Et j'en oublie, c'est diffusé par Belin, c'est 8 euros et c'est pour la bonne cause. Merci beaucoup. Culture Média revient demain à 9h. Pardon Marc Lavoine de parler par-dessus vous. La réouverture tant attendue des salles de cinéma, on en parle avec le président de Pathé Film, c'est Ardavan Safae, et puis l'écrivaine Maïlys de Kerangal pour Canoë, son nouveau recueil. C'est des nouvelles, petites nouvelles troublantes, toutes raccrochées ensemble. Je vous raconterai comment, mais demain, ça sera dans ce studio. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff, ça fait du bien. Donc là, je vous dis à demain. Pas de flatterie, merci Marc Lavoine, salut.
Europe 1, Culture Média.